Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Dann sieht hin, San Pinterhausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons en Irlande du Nord. Le sujet s'est invité au G7. Le protocole mis en place au moment du Brexit peine à satisfaire des unionistes dont Boris Johnson sait qu'ils se sentent trahis et très isolés. Les Européens ne veulent rien savoir. Tout ce qui a été signé doit être signé. Et la politique en Irlande du Nord est sévèrement ébranlée. On verra d'ailleurs que le Brexit n'est peut-être qu'une des raisons de cette fragilité. Le bout du monde en Corée du Sud ce soir. Vous entrerez dans une académie qui forme les chanteurs et les danseurs de la K-pop. Ces groupes ultra populaires dans le monde entier. Et cette académie, croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Maria Melchiordi a trouvé le MeToo vénézuélien. Elle a trouvé des opposants birmans en plein entraînement et une bestiole coincée dans le permafrost depuis des milliers d'années. C'est en Sibérie. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et cet avertissement de l'OMS. Le virus va bien plus vite que le vaccin. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Bonsoir Agnès Maillot.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'université de Dublin, la Dublin City University. Vous avez notamment écrit L'IRA et le conflit nord-irlandais, publié chez PUF, aux presses universitaires de France. Je le disais, Agnès Maillot, l'Irlande du Nord, dont on sait qu'elle est le point d'achoppement des négociations sur le Brexit, qu'elle le reste post-Brexit, s'est invitée au G7, c'était prévisible. Est-ce qu'elle a même empoisonné, au fond, ce G7, comme on a pu lire dans les journaux?
Alors oui, dans la mesure où pour l'instant l'Union européenne et le Royaume-Uni n'arrivent pas à trouver un accord sur le célèbre protocole nord-irlandais, c'est-à-dire où placer la frontière entre le Royaume-Uni d'une part et l'Union européenne de l'autre. Pour éviter une frontière en dur entre les deux parties de l'Irlande, Johnson avait signé un traité selon lequel la frontière, enfin les contrôles douaniers et tarifaires et sanitaires seraient effectués dans les ports nord-irlandais. Solution qui a été rejetée en masse par les unionistes qui ont peur en fait que ça n'éclate le Royaume-Uni, que ça traite l'Irlande du Nord différemment des autres parties constituantes du Royaume-Uni. Et on en est là, puisque personne n'a de solution.
D'autant que les unionistes, vous allez m'arrêter si je me trompe, Agnès Maillot, mais avaient pesé tout leur poids contre Theresa May, précisément pour éviter ce genre de situation. On pensait que Boris Johnson allait aller dans leur sens. Au fond, est-ce qu'il leur a joué un jeu de dupe, Boris Johnson, et aujourd'hui ils le sentent? Est-ce qu'on peut dire même que les Brexiteurs n'assument pas vraiment leur choix, en fait?
Alors oui et non, parce que Johnson, il s'était opposé à Theresa May, non seulement pour cette histoire du backstop, qui était donc ce qui avait été imaginé à l'époque, mais aussi parce que la solution de May faisait rester le Royaume-Uni dans l'union douanière pendant un certain temps, ce que les Brexiteurs les plus acharnés refusaient catégoriquement. Mais effectivement, Johnson leur avait promis aux unionistes qu'ils ne franchiraient pas la ligne rouge qui était celle du backstop, et en fait, il l'a fait. Il a proposé une solution qui revient à peu près sur ce qu'avait proposé Theresa May, c'est-à-dire des contrôles douaniers dans les ports pour les produits concernés à leur arrivée dans les ports nord-irlandais.
Agnès Maillot, qui met le feu aux poudres là-dessus? Est-ce que c'est Johnson qui essaye de prévenir, qui, au fond, en même temps qu'il parle au G7, donne un message à l'intérieur du pays en disant « de toute façon, je vous préviens, le protocole, on ne le tiendra pas ». Est-ce qu'il n'est pas en train de tester ses partenaires pour essayer de les forcer à un nouvel accord? De toute façon, ils finiront par plier. Est-ce que c'est pas, au fond, le message vers son pays qu'a essayé d'envoyer Boris Johnson?
Oui, oui et non, parce que c'est un message très dangereux dans la mesure où il n'a pas grand-chose d'autre à proposer. C'est-à-dire que de toute manière, la question sur laquelle achoppent les négociations depuis le début, c'est où est-ce qu'on met cette frontière. Donc, pour l'instant, Johnson veut unilatéralement suspendre le protocole qui devrait rentrer en vigueur. Dans son intégralité, ce en quoi évidemment il est en tort légalement, mais on voit pas très bien ce que Johnson chercherait à obtenir. Ce qu'il cherche surtout, c'est à calmer le jeu en Irlande du Nord, parce qu'on a quand même eu pendant 15 jours en avril des émeutes nuit et jour, et particulièrement la nuit, qui était principalement le fait des communautés loyalistes qui étaient dirigées contre les forces de police, et on veut pas que la situation dégénère. Et surtout, on sait que d'ici 3 semaines, 1 mois, il y a ce qu'on appelle la saison des défilés, c'est-à-dire les orangistes, les loyalistes qui vont défiler comme ils le font tous les ans. Et donc, ce que le gouvernement britannique cherche malgré tout à obtenir, c'est une situation moins tendue. Donc son message, il s'adresse aux unionistes nord-irlandais avant tout. Évidemment, il s'adresse aussi aux Brexiteurs les plus durs, qui sont quand même très influents à la Chambre des communes et dans le gouvernement.
Alors les défilés des orangistes, comme vous dites, ça commence effectivement au début, le 12 juillet. Mais ce que je me demande au fond, c'est, et vous avez rappelé effectivement ces émeutes au mois d'avril, est-ce que c'est ce qui se passe autour du Brexit qui fait exploser la politique nord-irlandaise? Est-ce qu'on n'avait pas mesuré la réponse des loyalistes? Ou est-ce qu'au fond, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, pardon pour le cliché, et que c'est aussi plus loin encore qu'il faut aller chercher les raisons de ce tangage politique important?
Bien sûr, bien sûr. Dans un sens, le Brexit, c'est la manifestation, c'est la plus visible de ce malaise qui existe dans les communautés loyalistes depuis le processus de paix. Ces communautés qui se sentent un petit peu laissées pour compte, qui ont l'impression que leurs représentants politiques les négligent, que les avancées se sont faites bien davantage du côté nationaliste que de leur côté à eux, et en fait qu'ils ont tout à perdre avec ce processus de paix. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'étaient rangés du côté du Brexit au moment du référendum, estimant que c'était une façon de resserrer les liens entre les différentes parties du Royaume-Uni. Donc c'était un calcul peut-être à court terme qui nous mène à l'impasse où on est actuellement, mais c'est vrai aussi que l'unionisme actuellement, la famille politique unioniste se déchire. Il y a beaucoup d'avancées, par exemple, sur le plan sociétal qui les mettent dans des situations très compliquées, la législation sur l'avortement, la législation sur le mariage pour tous, etc. Et puis là, ce qu'on voit par ailleurs, c'est que un nouveau gouvernement doit effectivement être formé d'ici au 21, voilà, le 21 lundi prochain, puisque l'ancienne première ministre a démissionné, et donc comme il y a un nouveau potentiel Premier ministre du côté unioniste, il faut aussi qu'il y ait un nouveau Premier ministre, vice-Premier ministre nationaliste. Et, or, pour l'instant, ils n'arrivent pas à s'accorder sur le statut de la langue irlandaise. Donc, c'est un débat très complexe autour de l'identité, de l'identité linguistique, culturelle, etc. Mais ce qu'on constate, c'est que ce qu'avaient réussi à faire les accords de paix, c'était de mettre un petit peu de calme et de calmer le jeu dans une situation qui était très tendue depuis plus de 30 ans. Mais dans le fond, les désaccords restent pratiquement entiers.
Et ce que vous êtes en train de nous expliquer aussi, c'est que, au fond, effectivement, les crispations sont restées celles d'il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui. Et pendant ce temps, l'Irlande au sens large, l'Irlande du Nord aussi, a beaucoup grandi, a beaucoup évolué, a beaucoup changé, alors que les divisions politiques, elles, sont restées un petit peu dans cette espèce de statu quo d'il y a 20 ans. Je vous écoute et j'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'une partie des loyalistes, notamment, ont été ringardisés, en quelque sorte. Le mot est peut-être un peu fort, mais est-ce que ça veut dire ça?
Alors, en fait, oui, parce que effectivement, ce qu'on voit d'une part en République d'Irlande, c'est un pays qui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a 20 ans, qui a fait des bonds en avant à plein de niveaux différents. Et en Irlande du Nord, on voit aussi ce même phénomène couplé du fait que de plus en plus de gens ne se réclament plus ni d'un côté ni de l'autre, ne sont plus nationalistes et sont plus non plus unionistes, ils sont autre chose, ils sont nord-irlandais, ils sont au milieu, ça les intéresse plus tellement de se ranger d'un côté ou de l'autre. Et donc on a une famille politique, la famille politique unioniste, qui est en perte de vitesse et qui en plus vit sous la menace constante d'une réunification qui est beaucoup plus à l'ordre du jour maintenant qu'elle ne l'était avant le Brexit. Ça, il y a aucun doute là-dessus. On voit que les sondages d'opinion montrent que l'opinion a considérablement bougé au cours des 10 dernières années, et le Brexit n'y est pas pour rien, bien au contraire. Donc effectivement, on a l'impression quand même que la communauté loyaliste n'arrive plus très bien à se positionner par rapport à ses voisins du Sud, par rapport au gouvernement britannique, etc., qu'ils sont en ils se sentent en tout cas en perte de vitesse, et tout ça, ça se traduit par des tensions dans les quartiers les plus désavantagés, où effectivement là, on a violences, on a des paramilitaires qui continuent à être actifs, on a un échec scolaire qui est très élevé, un taux de chômage, etc., etc. Donc tout ça, ça fait un contexte qui est, c'est une cocotte minute, et la moindre petite goutte peut effectivement faire exploser tout ça, comme on l'a vu en avril avec les émeutes.
Mais est-ce que ça veut dire politiquement que, puisque effectivement ces loyalistes, vous êtes en train de le dire, ont tendance à disparaître, qui sont plus, y compris dans les préoccupations au fond qui sont celles des gens aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il émerge aussi un autre parti, un centre en fait, quelque chose qui servirait de juge de paix entre ces deux anciennes grosses entités qui ont plus de 20 ans d'âge?
Alors, les loyalistes ne disparaissent pas, pas de façon si marquée. Oui, oui. Disons que pour l'instant, en Irlande du Nord, on a à peu près, on a un centre qui est à peu près 20% des suffrages, ce qui est énorme parce que c'est le double de ce que c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, il y a de plus en plus de gens qui ne se
reconnaissent ni dans l'un ni dans l'autre, en fait. C'est ça que ça veut dire.
Et puis, on a une espèce de, une quasi-égalité entre les nationalistes d'un côté et les unionistes de l'autre, ce qui est aussi un changement considérable par rapport à ce qu'on avait il y a une cinquantaine d'années au début du conflit, où on avait pratiquement 65% d'unionistes contre 35% de nationalistes. Donc effectivement, les unionistes sont en perte de vitesse. La démographie le montre aussi, puisqu'il y a de moins en moins de protestants, il y a plus de catholiques, mais surtout il y a de plus en plus de gens qui ne se réclament ni de l'une ni de l'autre religion. Donc tout ça fait que le sentiment d'insécurité qui semble gagner la communauté unioniste est d'autant plus réel qu'ils ont l'impression qu'ils ont de moins en moins de soutien du côté de Londres, qu'ils sont de moins en moins nombreux, et curieusement, ceux qui cherchent à établir un dialogue avec eux, à les rassurer, etc., ce sont les politiques de la République d'Irlande, et ils n'en veulent pas, puisque eux, ils ne veulent pas se tourner vers le sud, ils veulent constamment se tourner vers la Grande-Bretagne. Donc il y a une espèce d'ironie dans tout ça, puisque ils travailleraient peut-être bien mieux avec les politiques de la République d'Irlande, qui sont prêts à les écouter, à les entendre, à discuter avec eux, etc.
Agnès Maillot, vous disiez effectivement qu'on parlait de plus en plus de réunification. Comment on peut imaginer un référendum nord-irlandais, alors à une échéance qui n'est pas forcément une brève échéance, mais comment ça peut se jouer, comment ça peut se dérouler tout ça? Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que on risque de voir une situation, à un moment, une situation à l'écossaise, où on va effectivement voter pour ou contre rester dans l'Union en Irlande du Nord?
Alors, pour l'instant, la seule façon d'obtenir un référendum, c'est que le secrétaire d'État à l'Irlande du Nord accepte la tenue d'un référendum. Or, il n'est absolument pas dans l'intention ou dans l'intérêt du gouvernement britannique de déclencher un référendum en Irlande du Nord, précisément au vu de ce qui peut se passer en Écosse et parce qu'ils craignent un éclatement du Royaume-Uni, ou du moins une espèce d'échéance, un échéancier, peut-être pas dans 5 ans, mais peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Les sondages d'opinion, pour l'instant, donnent le non à la réunification gagnant. Donc, s'il y avait un référendum maintenant, l'Irlande du Nord resterait rattachée au Royaume-Uni, puisque la majorité des gens se prononceraient contre une réunification. Mais l'opinion, elle bouge, et elle bouge vite. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent, par ailleurs, que l'Irlande du Nord ne serait pas économiquement dans une situation catastrophique si elle rejoignait la République d'Irlande. Au contraire, ça pourrait même, dans un moyen terme, apporter des bénéfices économiques, sociétaux, etc. Donc, c'est une discussion pour l'instant qui n'a pas lieu d'être selon le gouvernement britannique, parce qu'ils disent que il n'y a pas d'indicateur suffisamment clair pour démontrer qu'on a besoin d'un référendum. Mais d'ici quelques années, si les sondages d'opinion continuent à évoluer dans le sens d'une réunification, c'est une éventualité qu'il faudra bien contempler de la part du gouvernement britannique.
En attendant, et à très court terme, là pour le coup, Agnès Maillot, qu'est-ce qui doit se passer dans les 7 jours qui viennent, donc jusqu'à au point de la formation de ce gouvernement, pour éviter ce qu'on disait au début de cet entretien, c'est-à-dire que les choses s'enveniment, et surtout que au moment des défilés orangistes, on se retrouve avec des situations de face à face que chacun veut éviter. Qu'est-ce qui doit se passer pendant ces 7 jours-là pour que ça se passe bien?
il faut que les deux principaux partis, c'est-à-dire le Parti unioniste démocratique et le Sinn Féin, se mettent d'accord sur le statut de la langue irlandaise. Et pour ça, il faut que le Parti unioniste accepte de légiférer à terme, bientôt, sur la langue irlandaise, en gros pour la rendre officielle, tout comme d'ailleurs ce qu'on appelle le Ulster Scots, qui est un dérivé du gaélique écossais, mais qui est dérivé puisqu'il se parle en Irlande du Nord. Donc ces deux langues sont mises en parallèle et on accordera aux deux un statut officiel. Les unionistes sont pas très enthousiastes à l'idée de bouger dans ce sens-là, mais ils se sont engagés à le faire. Et les républicains, ils demandent au gouvernement britannique d'intervenir comme il l'avait fait au moment de l'avortement, de la législation sur l'avortement et du mariage pour tous, ce que pour l'instant le gouvernement britannique n'est pas prêt à faire. S'il n'arrive pas à se mettre d'accord, ça veut dire qu'on n'a pas de gouvernement en Irlande du Nord, donc retour à la case départ, c'est-à-dire qu'en fait c'est Londres une nouvelle fois qui va mettre en vigueur l'administration directe. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de gouvernement, et ça c'est une solution dont personne ne veut. Donc on a encore quelques jours devant nous pour qu'ils se mettent d'accord, mais comme vous le disiez, ça fait partie des nombreuses questions sur lesquelles ils sont encore profondément en désaccord.
Ce sera l'occasion pour vous de revenir nous voir, Agnès Maillot. Merci beaucoup, merci vraiment pour ces éclaircissements. À très bientôt dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Corée. Vous entrerez dans une académie qui forme les futurs chanteurs et danseurs de la K-pop, ces groupes ultra populaires. Vous verrez que l'académie, c'est pas comme dans les films. Un peu d'élus, beaucoup de sueur. Et je vous dis juste ça au passage, le contrat de base s'appelle le contrat esclave. Ça vous donne une petite idée. Dans le quart d'heure qui suit, sous les radars, Mariam El Kurdi.
Eh bien, nous irons notamment dans la jungle birmane où des militants opposés au coup d'État du 1er février s'entraînent à la résistance armée contre la junte.
Le monde d'après, bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous. Dans la course entre le virus et le vaccin, nous dit l'OMS, le vaccin va plus vite en Occident, mais presque partout ailleurs, c'est l'inverse. C'est le virus qui est en tête.
Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète fait une escale à Amsterdam. Benny Sings, Here It Comes, c'est dans la playlist de France Inter.
Rooftop, parking lot, 86. Not. You can see all the way to the final bus stop where we met in July. I was broke, you were hot, and this blue sky reminds me of things we forgot to say. Here it comes, look at the sun, it's all we need for now. All we need for now. Number one. My head still hurts if we fell off that church. You remember I told you that you were my first. When we move up the hill, I promise I will start the life that we dreamt of. I know it, I feel it. Look at the sun, it's all we need for now. Number one, here it comes. Look at the sun, it's all we need for now. Coming round so brightly, talk and talk, let it all be common sense. All you need until the night falls, and you know it, irrational peace.
le bruit du monde, ce soir, est en Corée du Sud. Et ce que vous entendez là, c'est BTS, un groupe de K-pop mondialement connu. Demandez à vos enfants si vous êtes déjà perdus. Un clip de BTS sur YouTube peut monter jusqu'à, tenez-vous bien, 1 milliard de vues. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire en termes de revenus pour l'ensemble de la K-pop ? BTS, c'est la locomotive du secteur, 3,6 milliards de dollars de revenus annuel. Derrière ces groupes, de nombreux jeunes gens qui tentent de percer évidemment un rêve pour des centaines d'entre eux. À Séoul, il y a une école censée former ces chanteurs, ces danseurs de demain, une académie, mais croyez pas, on n'est pas à la télé, on n'est pas dans Fame, on est plutôt dans Marche ou Crève, et le reste, c'est Nicolas Roca qui raconte.
En plein cœur du quartier huppé d'Abkuchong, un bâtiment de 6 étages héberge sur 2 d'entre eux Sand Factory, l'une des meilleures académies de K-pop du pays. En gravissant les étages, on entre dans une salle d'accueil où s'empilent les photos de stars qui ont fréquenté les studios d'enregistrement ou les pistes de danse de l'institution. Exit, Girls' Day ou Momoland, IEL sont nombreux à avoir suivi les conseils avisés de Kim Min-seok, le directeur. Il nous reçoit dans son bureau.
L'énergie, c'est la clé pour devenir une star. Les capacités en chant, en danse, on peut les apprendre. C'est ce qu'on enseigne ici. On peut même modifier l'apparence si on veut, avec des régimes appropriés. Mais l'énergie, la volonté, c'est ça qui va transformer quelqu'un normal en star de la K-pop.
Car le chemin jusqu'à la célébrité est long et semé d'embûches. Parmi les centaines de milliers de prétendants, seuls quelques-uns pourront toucher le Graal.
Prenons quelqu'un de 14 ans qui vient ici dans ce bureau et me dit « J'ai envie de devenir la prochaine star de la K-pop ». Sa trajectoire dépendra de son talent. Quelqu'un sans talent, sans énergie et sans l'apparence esthétique est très loin des critères nécessaires pour devenir une star. Alors on le réorientera vers une autre carrière dans la même industrie, comme l'écriture de chansons ou quelque chose de plus créatif.
Pour les quelques élus, par contre, cette académie ne représente que la première étape. Le rêve ultime est de signer chez l'un des 4 plus grands labels du pays, SM, YG, JYP et le nouveau venu Big Hit Entertainment. Et pour cela, il n'y a qu'une méthode.
Si cette personne a du talent, alors nous avons des contrats avec plus de 130 labels, et pas seulement les plus grands. Donc je pousserai la personne à faire au moins 4 auditions par mois, jusqu'à 8 en tout. Nous les incitons dès le début à en faire beaucoup, car c'est la clé de la réussite. Ensuite, si cette personne parvient à devenir un stagiaire dans un label, alors elle travaillera énormément tous les jours.
La suite se passe en 2 étapes. D'abord, un contrat stagiaire, aussi appelé ici contrat esclave, avec l'entraînement intense qui le caractérise.
Ici, à l'académie, leur vie ne change pas tellement. Mais dans les labels, ils n'ont pas leur téléphone durant la journée. Leur régime alimentaire est calculé précisément. Ils s'entraînent de 10h du matin à 10h du soir. Vous avez des cours de langues étrangères, de sport, du chant, de la danse. C'est ça la vie d'un stagiaire dans un label.
Cela peut ensuite aboutir sur la signature d'un vrai contrat avec une rémunération à la clé. Mais avant, il faut rejoindre le millier d'apprentis vedettes du pays. C'est le rêve des élèves de l'académie qui naviguent entre les couloirs éclairés par des néons rouges et bleus. Dans le studio d'enregistrement, nous retrouvons Kim Canyon. Ses journées s'organisent autour d'un seul et même objectif, devenir une idole, le nom donné aux stars de la K-pop.
Il y a des jours où je vais dans mon école de danse, puis je viens ici pour prendre des cours de chant. Enfin, s'il y a des auditions à passer, alors je m'y rends. Je travaille dur pour avoir un contrat auprès d'un label, mais pour cela, il faut passer des auditions. J'ai eu un contrat stagiaire durant 3 mois, mais j'ai quitté l'entreprise car il y avait des choses qui n'étaient pas aussi belles que je le pensais. Maintenant, je passe beaucoup d'auditions pour signer un meilleur contrat.
You were dreaming of me, baby, baby. 이걸 못 쓰겠는데?
그러니까요. 심각한데요.
À l'image des critiques bienveillantes de son professeur de chant, ici aussi le travail est sérieux, mais l'ambiance est plus détendue qu'au sein d'une maison de disques.
La vie est très différente dans les labels. Certaines entreprises ont des côtés très obscurs. Par exemple, elles ont des caméras de surveillance pour s'assurer que l'on reste en forme, ou bien ils les placent dans le studio d'enregistrement pour être sûr que l'on s'entraîne dur. Si on prend du poids, on va nous pousser à en perdre. Ici, on gère nos horaires comme on le souhaite. Personne n'essaie de nous façonner de manière spécifique.
Venu observer son élève et l'écouter chanter, Kim Min-seok entend les critiques, mais souhaite aussi dénoncer les stéréotypes qui collent à l'image de l'industrie.
Ce sont les élèves qui décident. Personne ne les force à être dans ces situations. Je les préviens en leur expliquant que la vie sera dure, même s'ils deviennent des stars de la K-pop. Si l'on ne regarde que les aspects négatifs, on ne voit pas toute l'histoire. Désormais, tout le monde sait à quel point cette industrie est difficile, donc personne ne peut se lancer en étant surpris de la manière dont les choses se déroulent.
Le gouvernement sud-coréen a tenté d'agir pour garantir les droits de ses stagiaires en limitant les contrats dans le temps ou les pénalités de rupture de ces derniers, ou bien même en essayant de procurer à ses stagiaires de l'assistance psychologique.
J'arrive pas à savoir si on leur souhaite bonne chance ou si on leur conseille de fuir. Nicolas Roca à Séoul pour France Inter. Merci beaucoup Nicolas. À très bientôt. Le bruit du monde, la suite. C'est tout ce qui passe sous les radars repéré par Mariam El Kurdi. Et Mariam, c'est d'abord au Venezuela que vous nous emmenez.
Oui, nous sommes ici dans les locaux d'une ONG qui défend le droit des femmes et des enfants et fait de la prévention contre les violences sexuelles. Le mouvement hashtag MeToo gagne du terrain au Venezuela. Dans le pays, il s'appelle hashtag Yo sí te creo, qui signifie « Moi, je te crois » en espagnol. Parmi les victimes dont la parole commence tout juste à se libérer, Jonaira Chavez, elle est styliste, aujourd'hui elle a 28 ans. Elle affirme avoir été violée quand elle avait 15 ans. Il a insisté pour me ramener chez moi et à l'époque, je vivais dans une région assez éloignée. Nous avons pris l'autoroute et lorsque nous sommes arrivés près du centre Francisco Farrardo, cette personne m'a violée dans la voiture. L'agresseur avait une dizaine d'années de plus qu'elle, elle ne l'a jamais recroisée et après les abus qu'elle a subis, elle raconte que ses notes ont chuté. Elle a redoublé une année, n'a jamais pu terminer l'université, elle a commencé à perdre confiance en elle et à consommer des drogues. Mais aujourd'hui, le fait d'en parler et d'avoir une aide psychologique l'aide à avancer. Depuis quelques semaines dans le pays, de plus en plus de personnes célèbres témoignent d'abus sexuels subis et ouvrent la voie de nombreuses victimes sur les réseaux sociaux. La justice a ouvert des enquêtes et vient de lancer des mandats d'arrêt, notamment contre Alejandro Sojo, chanteur du groupe Los Colores, et contre Tony Maestrachi, batteur du groupe Les Tomates Fritos. Selon le procureur général du Venezuela, il y a eu 8450 inculpations, 1676 mandats d'arrêt pour des crimes ou délits sexuels depuis sa prise de fonction en 2017. Pour une population de 30 millions d'habitants. Selon l'ONG SECODAB de protection des mineurs, l'abus sexuel au Venezuela est normalisé dans une société patriarcale et conservatrice. La violence sexuelle est loin d'être en régression, elle est même en hausse. Alors les choses bougent, oui, mais comme souvent, à petits pas.
Et direction maintenant la jungle birmane.
Oui, des hommes et des femmes traversent une rivière à l'aide de cordes. Ils s'exercent au tir et au maniement des armes. Ils sont en tenue militaire vert kaki, mais sont chaussés de tongs. Ce ne sont pas du tout des militaires aguerris, loin de là. Ce sont des jeunes opposants à la junte birmane, habitués aux manifestations depuis le coup d'état du 1er février, renversant Aung San Suu Kyi. Parmi ces militants qui ont décidé de s'entraîner à la résistance armée, il y a Kin, elle a 20 ans. Nous détestons la dictature militaire et nous avons décidé d'y mettre fin en éliminant les militaires du pays. Nous promettons d'aider et de faire de notre mieux pour les achever quand la guerre commencera, dit-elle. Kin, comme d'autres jeunes, a rejoint l'Union nationale Karen, un des principaux mouvements de rebelles actifs dans l'est du pays, environ 2000 membres. Min, lui, a 24 ans, lui aussi suit ce programme d'entraînement spécial. Nous devons nous réveiller à 4 heures du matin pour faire de l'entraînement physique, raconte-t-il. Puis nous nous entraînons pour le défilé militaire et nous apprenons à secourir et à transporter quelqu'un qui s'est blessé, explique-t-il. Les manifestations contre la junte birmane sont systématiquement réprimées par les forces de sécurité qui tirent à balles réelles sur la foule. Plus de 700 civils ont été tués depuis le 1er février. Selon la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, l'escalade des violences a plongé le pays dans une catastrophe pour les droits humains.
Et maintenant, une découverte, ça n'a rien à voir, Mariam, une découverte impressionnante en Sibérie.
Oui, quand un animal revient à la vie après être resté congelé 24 000 ans, Fabienne.
Ça fait beaucoup.
Oui, exploit réalisé par ce rotifère bdelloïde, c'est le joli nom qu'il porte. Cet animal microscopique est resté congelé dans le permafrost pendant ces milliers d'années avant d'être ramené à la vie par des chercheurs russes. Son milieu habituel est l'eau douce et sa durée habituelle est de 3 à 6 semaines. La découverte est expliquée dans la revue Current Biology, dont le co-auteur est Stas Malavine. Dans une vidéo, il explique notamment que ce rapport est la preuve la plus solide à ce jour que les animaux multicellulaires pourraient supporter des dizaines de milliers d'années en cryptobiose, un état dans lequel le métabolisme est presque complètement à l'arrêt, selon lui. Alors l'animal ressemble à une sorte de têtard, Fabienne. À l'époque de sa naissance, l'homme de Néandertal venait de disparaître. Il mesure à peine 2 mm de long, mais il est doté d'un cerveau composé de 150 à 200 neurones. Et puis une autre performance de ce rotifère bdelloïde, il est parvenu à se cloner. Selon les chercheurs russes, ce spécimen peut être ajouté à la liste des organismes capables de survivre indéfiniment et capables aussi de se reproduire seul.
Comme ça c'est pratique, Mariam El-Kurdi, merci beaucoup. Sous les radars, rendez-vous demain. Évidemment, vous partez avec une valeur sûre. Ike et Tina Turner, Proud Mary, sur France Inter.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleep, and I was worrying about the way the things might have been. Big wind. Never.
Ike et Tina Turner, Proud Mary sur France Inter. Pouce en l'air, comme dirait Jean-Marc Four.
Fabienne Sintès, le 18-20.
Le monde d'après, Jean-Marc, l'Organisation mondiale de la santé hier a lancé un cri d'alarme. Attention, ce n'est pas parce que la pandémie recule en Occident que le problème est réglé au niveau mondial. La situation reste catastrophique. Le virus se propage plus rapidement que la vaccination ne progresse. Et c'est votre monde d'après.
En termes polis, on appelle ça une illusion d'optique. En termes crus, on dirait plutôt de l'égoïsme vaccinal. Regardez son nombril. Comme la pandémie, en effet, recule significativement en Occident depuis quelques semaines, il est tentant de penser que l'affaire est derrière nous. Se féliciter du nombre décroissant de décès quotidiens, du nombre croissant de personnes vaccinées, de la reprise économique spectaculaire, et puis profiter de la réouverture des terrasses sous le soleil en se disant « ça y est, c'est fini, c'est derrière nous ». Eh bien, c'est faux. Lors de la seule journée d'hier, le virus a tué 10 780 personnes dans le monde et en a contaminé près de 376 000 autres. C'est presque autant que lors des pics de fin janvier, début février. Et encore, ne parle-t-on là que des chiffres officiels. Simplement, aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident qui est dans la tourmente. Plus de 80% des victimes se trouvent ailleurs dans le monde. En Inde, où la tragédie continue, 4 000 morts par jour en moyenne, plus de 7 000 lors de la seule journée de jeudi dernier. Et aussi en Asie du Sud, dans certains pays d'Afrique et en Amérique latine, où l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie, le Brésil sont dans la tourmente. 2000 morts par jour au Brésil, où l'obscurantisme du président d'extrême droite Jair Bolsonaro continue de faire des ravages. La situation n'est absolument pas sous contrôle au niveau mondial.
Alors cela dit, on vient de le voir avec les engagements du G7, les pays riches réagissent, non ?
Oui, il y a cette promesse du week-end dernier, une promesse qui claque, le don d'un milliard de doses aux pays pauvres, un milliard, ça en jette. Mais la vérité, c'est qu'on est loin du compte. Pour l'OMS, c'est trop peu et trop tard. D'abord, c'est comme pour le Téléthon. Il faut voir si ces promesses se concrétisent vraiment, d'autant qu'elles consistent en partie en une aide au dispositif international COVAX, pas en doses de vaccins en tant que telles. Ensuite, le besoin réel est évalué par l'OMS à 10 fois plus. 10 milliards de doses pour vacciner pleinement 70% de la population mondiale. Et pour l'instant, COVAX n'a pu distribuer que 85 millions de doses, autant dire une goutte d'eau. En plus, les pays riches font de l'épargne, en fait. Ils ont des réserves ou des commandes estimées à 4 milliards de doses, beaucoup plus que ce dont ils ont besoin pour vacciner leur propre population. Résultat, pour l'instant, 50% des injections bénéficient à 15% de la population mondiale, les riches. À l'inverse, dans de nombreux pays, la vaccination en est au stade zéro, par exemple au Tchad ou en Haïti, zéro vacciné, et à peine plus de zéro au Bénin, au Soudan du Sud, au Burkina Faso. Et puis, il faut aussi aider ces pays à stocker les doses dans les fameux super réfrigérateurs et, mieux encore, à terme, les aider à les fabriquer eux-mêmes. Donc, résultat, oui, le virus progresse plus vite aujourd'hui encore que le vaccin.
Ok, mais on se dit, c'est vrai, mais plus chez nous.
Et c'est là qu'on a tort, parce que ça, c'est en fait la bêtise du raisonnement de l'égoïsme vaccinal. Pour deux raisons. La première est sanitaire. Plus on tarde à vacciner l'ensemble de la population mondiale, plus la probabilité augmente de voir apparaître de nouvelles mutations du virus qui vont nous revenir en boomerang. Inévitable selon l'OMS. On en a d'ailleurs l'illustration sous les yeux avec ce début de rebond épidémique en Angleterre. Près de 8000 cas par jour, deux fois plus qu'en France, à 90% liés au variant indien. Alors c'est sans doute lié à la forte communauté indo-pakistanaise sur le sol britannique, mais ça vaudra demain pour une autre communauté dans un autre pays. C'est imparable dans un univers mondialisé. La deuxième raison est économique. Le fossé se creuse entre pays riches et pauvres. En Inde, en Amérique latine, où la pandémie reste donc incontrôlée faute de vaccination suffisante, les nouvelles classes moyennes apparues ces dernières années replongent dans la pauvreté par centaines de millions de personnes. En Afrique, la famine menace dans de nombreux pays. Donc des années de progrès sont anéanties avec des effets en chaîne incontrôlables, tensions sociales, politiques et à terme quoi ? Exode migratoire massif vers les pays riches, inévitable là aussi. Donc combattre l'apartheid vaccinal, c'est pas seulement un devoir moral vis-à-vis de nos frères humains, ça relève aussi de l'intérêt bien compris pour nous-mêmes.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, à demain, le 18-20. La suite c'est tout de suite avec le journal de 19h et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, à tout de suite.